Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées, aujourd'hui une réflexion sur notre obsession contemporaine pour les chefs. La passion de l'incarnation est en train de dévorer toute la politique, que ce soit dans les démocraties illibérales, ça paraît normal, mais aussi dans notre démocratie dite libérale. Cette fascination pour les leaders charismatiques n'est pas nouvelle, mais s'inscrirait, selon Vincent Martini qui publie Le Retour du Prince chez Flammarion, dans une évolution propre à nos sociétés contemporaines entre le réel et le récit. Le politiste sera notre invité à 12h55. Mais avant cela, il sera aussi question de politique et de récits portés à leur paroxysme. À moins de revenir tout juste d'un voyage sur Mars, vous n'avez pas pu échapper, même indirectement, au phénomène télévisuel qui secoue la planète depuis des années et qui arrive bientôt à son terme. Nous allons parler bien sûr de Game of Thrones.
La grande table. Raphaël Bourgois.
Mais que dire encore de Game of Thrones, série monstre qui a marqué définitivement les années 2010, véritable objet culturel total. Ne pas regarder Gotham, c'est nécessairement se sentir un peu marginalisé quand le mardi matin, le lundi, pour les plus férus et les insomniaques capables de regarder la diffusion des nouveaux épisodes en direct à 3h du matin, chacun débriefe ses frustrations après un épisode trop lent ou son excitation quand les événements de la série se précipitent, quand ce n'est pas son état de tension insupportable comme depuis la diffusion du tout dernier épisode, nous n'en dirons pas plus. Philosophie de Game of Thrones, il faut écouter la semaine géniale qu'a consacrée Adèle Vendrette à la série sur France Culture, politique de Game of Thrones et le Moyen-Âge, Game of Thrones et le féminisme, cinématographie de Game of Thrones, Shakespeare et Game of Thrones et l'orientalisme, de Game of Thrones à l'héroïque fantasy. Les angles sont innombrables, j'en oublie certainement. Alors que la huitième et ultime saison est diffusée actuellement en Mondovision, nous allons tenter l'impossible, comprendre comment cette histoire de chevaliers, de dragons et de morts-vivants, aux centaines de personnages pris dans des intrigues d'une complexité folle, où on peut voir mourir en un seul épisode plusieurs de ses personnages principaux les plus sympathiques, a su s'imposer de la sorte. Et pour répondre à cette mission impossible, Ava Cahen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste cinéma, vous avez écrit Game of Thrones décodé, c'est aux éditions du Rocher, un ouvrage qui se présente comme une mise au point sur l'ensemble de la série jusqu'au début de la dernière de la huitième et dernière saison. Évidemment, vous connaissez tous les secrets des sauces à Westeros.
Est-ce qu'on connaît vraiment tous les secrets de cette série?
On va voir. Mathieu Pot-Bonneville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous avez dirigé en 2015 l'ouvrage collectif Game of Thrones, série noire, qui rassemble des textes de critiques, d'historiens, de philosophes et d'écrivains sur la série. L'appareil critique qui accompagne chaque nouvelle saison est absolument monstrueux. C'est enseigné jusqu'à Harvard. En France aussi, on trouve des cours sur Game of Thrones pour s'inspirer un petit peu, notamment comme vous l'avez fait, de la philosophie, de l'histoire de la philosophie. Par exemple, Machiavel et Game of Thrones, c'était le titre de votre dernier article dans le hors série de Philosophie Magazine consacrée à la série. Alors on va tenter, comme je le disais, de trouver les raisons de ce succès. Ce sera forcément un petit peu subjectif, d'autant que la série a énormément évolué depuis ses débuts. Mais première hypothèse, je vous la livre, une série d'heroic fantasy qui est aussi une série politique, c'est ça le secret de Game of Thrones. Ça correspond avant tout à notre vision, ça s'inscrit même dans une histoire des séries qui ont évolué sur comment on représente la politique de façon assez noire, assez cynique. Je sais pas ce que vous en pensez, Mathieu Pot-Bonneville.
Et ça, c'était l'enjeu il y a 3 ans.
Moi, ce que
Merci.
Je trouve assez passionnant.
Mais non, mais je me
reproche moi-même. Non, mais c'est pour les auditeurs qui n'auraient pas tout suivi, si vous voulez.
J'ai récemment consacré effectivement un long entretien sur la présence de Machiavel dans Game of Thrones, mais je suis assez frappé que cette série ait à ce point évolué dans ses enjeux et dans ses thématiques. Il y a quatre ans, en effet, cette série traitait, au travers d'une guerre de succession entre familles, inspirée de la guerre des roses, la guerre des deux roses, pardon. Cette série traitait du pouvoir, de ses excès, de ses stratégies, de ses dangers et de ses conséquences. Et du coup, elle autorisait à réfléchir sur le monde contemporain et la manière dont le pouvoir s'y exerce. Et puis, on en est aujourd'hui arrivé à ce point que ça n'est plus la série qui parle du monde, c'est le monde qui parle de la série. Je veux dire que la série a intériorisé, en se détachant au fond de tout prétexte ou de toute référence à des événements extérieurs. Il y a encore 3 ans, on se demandait qui représentait telle famille et si telle bannière ne représentait pas les grandes marques. Bon, aujourd'hui, on s'interroge sérieusement sur les dragons, les morts-vivants et les princesses. La série a littéralement avalé le monde Et le discours critique que vous mentionniez, qui est proliférant, est devenu une sorte de satellite tournant autour des enjeux que les réalisateurs, que les showrunners définissent. Moi, je trouve que cette conquête de l'hégémonie, dans une série qui parle de la conquête du trône, est assez sidérante en réalité.
Pour rester un instant avec Anne sur cette question de la politique, il y a quand même eu, je le disais, une évolution. Mathieu Poët-Bonneville l'a dit, c'est peut-être plus l'enjeu, mais quand même on peut noter que ce qu'on pensait être la philosophie de Game of Thrones, c'est-à-dire la morale à la Ed Stark, la morale absolue, Edward Stark donc, qui meurt à la fin de la première saison. Qui incarne un petit peu cette rigueur, cette raideur morale et politique, c'était ceux qui perdaient, les losers. Or, aujourd'hui, ce qui reste en lice, même s'il reste toujours Cersei Lannister, la reine, la méchante reine qui est de Game of Thrones, ce sont, avec Jon Snow et Daenerys Targaryen, on va dire, l'incarnation de la morale.
L'incarnation de la morale. Alors après, la raideur dont vous parlez, par exemple, de la famille Stark, de Ned Stark, en l'occurrence, dans la première saison, moi, je les vois plus, cette famille-là, les Stark, comme des démocrates, si vous voulez, comme des libéraux, en réalité. Et je suis pas tout à fait d'accord sur l'évolution. Il y a effectivement une évolution politique, mais là, dans cette saison, particulièrement cette dernière, la politique reprend tous ses droits. On doit résoudre absolument cette question, la question qu'on nous pose et sur laquelle on est suspendu depuis désormais 8 ans, à laquelle on est suspendu depuis 8 ans, qui est qui va s'asseoir sur le trône de fer. Et évidemment, ces familles qui sont l'équivalent de mafia, qui sont l'équivalent de partis politiques, eh bien, au sein même de ces familles, il y a des renouvellements, il y a de nouveaux enjeux, il y a des rivalités. Et ça, c'est vrai que le monde en parle et en est un miroir concret.
Le monde en parle, c'est aussi que, comme vous l'avez dit Mathieu Poët-Bonneville, Game of Thrones parle du monde. Il y a une autre lecture possible, puisqu'on reste encore 2 secondes dans la politique si vous voulez bien, c'est à quel point Game of Thrones nous parle de l'équilibre mondial. Et ça a été aussi, vous allez me dire, c'était encore il y a quelques années, il y a un livre il y a quelques années de Dominique Moisy qui est spécialiste des relations internationales sur comprendre le monde multipolaire à la lumière de Game of Thrones, ou peut-être apolaire, pour reprendre une expression d'un ancien ministre des Affaires étrangères. Est-ce que ça c'est une entrée, quelque chose qui vous paraît toujours pertinent, avec évidemment, presque un sous-titre sur Game of Thrones et le réchauffement climatique.
Oui, cette question-là est passée au premier plan. C'est assez intéressant, par exemple, de voir comment le générique de la série a évolué. Générique qui, jusqu'à la saison précédente, survolait le continent, s'arrêtait sur ses villes, ses châteaux, son nord, son sud. Générique qui, aujourd'hui, s'est en quelque sorte replié sur très peu de lieux dont il explore plutôt les couloirs, les souterrains et les espaces intérieurs. On est passé, je trouve, d'une série qui interrogeait le caractère multipolaire du monde, l'affrontement d'un monde où les blocs ne sont plus identifiables, se sont détachés les uns des autres, à une série qui réfléchit aux enjeux de la survie commune de l'humanité face à une menace globale et qui du coup concentre ses personnages, parce qu'aussi un certain nombre ont disparu, donc on se tient chaud si j'ose dire, concentre ses personnages
surtout
dans peu de lieux
coming,
où ils essaient de faire face ensemble.
Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les puissants restent parfois aveugles et sourds aussi face à cette menace. Et là, la série le montre très bien. On parlait de la famille Lannister, le personnage de Cersei Lannister est isolationniste et climato-sceptique, et ça, voilà. C'est elle est légale de Trump d'une certaine manière et elle a signé son retrait de la COP21 d'une certaine manière.
Pourtant, ce n'était pas l'objectif de J.R.R. Martin, qui est l'écrivain qui a composé l'auteur du Trône de Fer, puisque c'est comme ça que s'appellent les livres, une danse de glace et de feu, si je dois traduire littéralement le titre original de l'anglais, Avakaen. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une surinterprétation aujourd'hui du rôle des séries? On veut absolument y voir des messages. Est-ce que c'était pas un peu autre chose dès le début? C'est de l'heroic fantasy,
oui,
il faut le dire.
Oui, je crois que la fiction, de toute façon, a un devoir, a une mission. Elle est une parabole du monde moderne. Ça, les séries actuelles ne s'en sont véritablement jamais cachées. Et ce qui est assez phénoménal avec cette série, c'est que l'heroic fantasy dont on parle, c'est en réalité un genre de niche. Ce n'est pas un genre qui fédère autour de son écran. Ce qui va fédérer, c'est l'alliance de l'heroic fantasy et de ce dont on parlait, des textes classiques, de la politique, de ses enjeux et de ce miroir qui se reflète. Donc je crois qu'on intellectualise cette série, bien sûr, mais je crois qu'elle a aussi un potentiel fort et intellectuel, qu'elle réfléchit la politique et l'exercice du pouvoir.
Alors quand même, la parole à J.R.R. Martin, qui rappelle son inspiration fondamentale, Tolkien, Le Seigneur des Anneaux.
J'ai lu Le Seigneur des Anneaux quand j'étais en seconde. Ça commence par une dissertation sur l'herbe à pipe. Puis il y a un anniversaire, et là je me dis, mais quoi ? Où sont les serpents géants ? Où sont les combats ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis ça progresse. Rivendale, les Cavaliers Noirs. Quand je suis arrivé aux mines de la Moria, j'ai décidé que c'était le meilleur livre que j'ai jamais lu. C'était tellement immersif. Tolkien approchait ça comme s'il écrivait de l'histoire. Il avait des généalogies qui remontaient sur des milliers de générations. Des histoires entières dans des notes de bas de page. Ça le rendait si réel. Et là, Gandalf meurt. Je ne peux pas expliquer l'impact que ça a eu sur moi, à 13 ans. Il ne peut pas tuer Gandalf. Conan n'est pas mort dans les livres de Conan. Tolkien a cassé cette règle. Et je l'aimerai à jamais pour ça. La minute où vous tuez Gandalf, tout le suspense qui vient ensuite est mille fois plus grand. Car n'importe qui peut mourir. Évidemment, ça a eu un fort impact sur moi et ma propension à tuer mes personnages pour un oui ou pour un non.
Martin qui explique pourquoi il tue tous ces personnages. Juste un mot, Mathieu Pott-Bonneville, justement sur ce genre de l'héroïque fantasy dont on a le sentiment qu'elle a pris avec Game of Thrones une ampleur qu'elle n'avait pas avant. Il y a eu évidemment le succès massif et mondial du Seigneur des Anneaux, à la fois les livres et les films. Il y a dans votre livre Game of Thrones série noire qui avait été publié aux Prairies Ordinaires un auteur, William Blanc, qui est historien médiéviste et qui prépare, je crois, en tout cas qui va publier un livre justement sur ce succès et l'importance de l'heroic fantasy aujourd'hui. C'était plus du tout un genre de niche.
Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à remonter juste un peu avant le Seigneur des Anneaux à un récit qui a eu lui-même un certain succès, qui s'appelait l'Anneau des Nibelungen, et dont Wagner a entrepris de l'utiliser pour produire une œuvre d'art totale. Je suis frappé de la manière dont, depuis deux siècles, ce genre qui a d'une certaine manière une sorte de kitsch ou de puérilité essentielle, ce genre est investi par les ambitions les plus extraordinaires ou les plus exubérantes. C'était le cas de Wagner, c'est le cas de Tolkien, évidemment, qui entreprend de faire un grand récit chrétien, hein, on le sait, au travers du Seigneur des Anneaux, où puisse être présent à la fois la nature, la politique et la religion, c'est la thématique des trois tomes. Donc, dans la façon dont cette héroïque fantasy, elle va être, investie, accaparé pour des enjeux qui la dépassent très très largement. Après, ce qui est vraiment fascinant, j'entendais George Martin évoquer la façon de tuer les personnages, c'est la façon dont, à l'intérieur de cette ambition totale, la prise de risque est et demeure extraordinaire. Moi, ce qui me fascine, pour aller vite, dans les derniers épisodes, dans les dernières saisons, ce sont moins les enjeux politiques que la manière dont la série, on l'a beaucoup dit, la plus chère du monde, une série dont le dernier épisode a coûté, je crois, 15 millions de dollars.
50 jours de tournage pour la bataille. 55 jours de tournage pour cette bataille de nuit. Entièrement filmée de nuit.
Deux fois plus que la bataille des bâtards. Voilà.
Ouais, qui est une des batailles historiques, évidemment, de la série.
La façon donc dont cette série si chère, si incroyablement chère, assume des prises de risques invraisemblables, comme par exemple le fait de produire un épisode complet où, c'est vrai, on ne voit pas grand chose. Et où on ne voit pas grand chose parce que on a tellement vu de batailles sur les écrans, on a vu des batailles si accablantes, et ici il faut penser au Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, qui est tombé des yeux de tous les spectateurs, que la seule manière de montrer une bataille, c'est de montrer qu'on n'y voit rien dans une bataille. Et dépenser évidemment 15 millions de dollars pour montrer qu'on n'y voit rien, c'est un geste esthétique et économique qui, artistique, pour le coup, me paraît intéressant.
Oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les batailles très chorégraphiées dans Avengers, par exemple, ou dans Star Wars. Non, mais qui sont aussi, et d'ailleurs, je crois que c'est dans votre livre que j'ai lu, ou je ne sais plus où est-ce que j'ai lu à Vakaen, que pour cette dernière saison, les showrunners ont regardé les Avengers pour voir à quel moment les batailles devenaient ennuyeuses, et que c'est là qu'ils introduisent leur fameux effet de ralentissement.
Exactement.
Qui sont si importants
dans les Avengers, c'est très brouillon, j'allais dire. On est dans l'étourdissement, on est dans le vertige. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression, à la fois dans cette dernière saison, d'être dans un film de zombies, dans un film de guerre. C'est vraiment un des tableaux apocalyptiques, style Apocalypse Now, quoi. Il y a un vrai travail esthétique, effectivement, sur la série. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement dense, les personnages sont très travaillés. Et c'est tout aussi spectaculaire, ça, de savoir travailler ces personnages, de savoir construire des arcs narratifs, que de savoir mettre en scène une bataille. Et effectivement, l'horreur, mais il n'y a pas plus terrible que de la sentir hors champ. Et ça, effectivement, la série l'a compris. Et le travail de plus en plus.
Oui, parce qu'Ava Karine, toute la première partie de votre livre est consacrée à la production, aussi bien au showrunner que justement à toute cette équipe qui les entoure. Et on se rend compte, si on le savait déjà, que c'est vraiment une espèce de dream team. Voilà, c'est les meilleurs dans chaque domaine, que ce soit
pour
les stylistes des cheveux jusqu'à les costumes, évidemment, les scénaristes. Il y a 17 réalisateurs qui se succèdent.
Peu de réalisatrices, malheureusement.
17 réalisateurs, ce qui interroge sur la cohérence aussi de cette série, la cohérence cinématographique.
Oui, voilà, c'est une affaire collective, quoi, véritablement. Et il faut avoir le sens du collectif, le sens du travail de l'autre. Et à chaque fois, ce qu'on remarque, c'est ça qui est très étonnant avec cette série, c'est son ambition, mais c'est aussi son homogénéité. Enfin, elle est extrêmement, j'allais dire, riche, et tout s'allie parfaitement. Chaque épisode nous emmène ailleurs, construit à chaque fois l'univers, pousse un peu plus loin les curseurs de cet univers et de ces mondes mis en place, qui sont complètement imaginaires. C'est créé de toutes pièces, quoi.
Mathieu Pottebonneville, il y a une véritable grammaire cinématographique qui s'est mise en place avec Game of Thrones, qui, je ne sais pas très bien comment la définir, si ce n'est comme une grammaire qui passe son temps à se défaire elle-même, à se réinventer.
Je crois qu'on pourrait décrire Game of Thrones s'il y a une ambition. Dans Game of Thrones, c'est une ambition hégémonique, c'est non seulement d'être la plus grande série de tous les temps et peut-être la dernière, mais de faire la peau au cinéma. Je crois que c'est une série qui a entrepris de faire la peau au cinéma.
Ou la nique, ouais.
Non, littéralement, de rendre impossible un certain nombre des canons qui définissaient jusqu'ici le cinéma. Le canon de la durée, par exemple. On voit bien comment la perception et l'expérience de la vision des séries a beaucoup compliqué la vision des films de cinéma. Une récapitulation assez extraordinaire, je trouve, de quelques gestes du cinéma à travers la série. Il faut mentionner que, évidemment, Game of Thrones n'est pas la première fiction à tuer son personnage principal au bout de très très peu de temps. Hitchcock l'a fait dans Psychose, en tuant Janet Leigh au bout de trois quarts d'heure. Bon, il faut mentionner l'avant-dernier épisode m'a beaucoup fait penser au Rio Bravo de Howard Hawks, dans cette veillée d'armes où chacun se regroupe et où d'un coup il y a une forme de bonhomie qui se met en place, de bonhomie bavarde qui se met en place et qui prélude à la grande bataille. Il y a une façon très délibérée de récapituler une dernière fois, de faire un dernier tour de piste à un certain nombre de gestes de cinéma. Et s'il y a une grammaire de ce point de vue-là, s'il fallait citer un cinéaste, à mon avis, c'est Kubrick. C'est Kubrick dont l'ambition était, pour chacun de ses films, qui a exploré tous les genres à peu près, avec ce désir, cette tentation, cette arrogance de produire à chaque fois le dernier film de guerre avec Full Metal Jacket, par exemple.
Tuer le game, c'est le titre de votre avant-propos à Vaken, avec ce jeu de mots. Évidemment, vous êtes d'accord à ce que vient de dire Mathieu Pottebonneville, c'est une ambition cinématographique totale. Et aussi, voilà, dans cette relation, il faut rappeler que Game of Thrones, je sais pas, peut-être pas la dernière série, mais en tout cas, c'est une série qui continue de se diffuser semaine après semaine et pas tout d'un bloc.
Absolument.
Comme c'est devenu presque la norme depuis House of Cards et Netflix.
Exactement. Voilà une nouveauté aussi. C'est le retour au feuilleton, en réalité, hein. C'est ces grands feuilletons, là. On attend. La série joue avec nos nerfs et elle délibérément, elle a fait de cela une caractéristique sévère, j'allais dire. Et donc il faut qu'on soit aussi dans cette attente. Ça nous met dans un dispositif encore plus fou, j'allais dire. On est encore plus curieux de savoir. Enfin voilà, ça joue véritablement sur des choses très physiques. Vous parliez de subjectivité tout à l'heure, mais voilà, ce temps d'attente, et ben ça fait partie de l'engouement et du plaisir qu'on prend aussi à regarder cette série.
Alors il y a des ressorts anciens, vous l'avez expliqué l'un et l'autre. Il y a aussi des ressorts nouveaux qui sont liés aux réseaux sociaux, qui sont liés évidemment au numérique et donc au développement de fans qui parfois donnent ça. quand les White Stripes deviennent les White Walkers. Voilà, c'est The Merkin. C'était quand même pour introduire un petit peu cette dimension des fans qui sont fondamentales pour comprendre le succès de la série Avakan, jusqu'à avoir fait du téléchargement illégal un élément important du succès.
Ah bah absolument, oui, c'est on parlait de la série
de assez
tous les superlatifs, et en même temps c'est la série la plus téléchargée du monde, mais ça n'affecte pas visiblement HBO ni le PDG de Warner, puisqu'en réalité il y a aussi tout un tas de produits dérivés à la série, et cela fonctionne, ça n'impacte pas en réalité, j'allais dire, les ventes de DVD et les ventes de Blu-ray et de produits dérivés. Donc c'est ça aussi qui est assez génial, j'allais dire, avec ce nouveau phénomène Game of Thrones, c'est que ça participe des nouveaux usages, des nouvelles méthodes de consommation et d'appréciation de ces séries-là.
Et ça participe, Mathieu Pottebonneville, à la construction d'un public. C'est-à-dire que Game of Thrones a une faculté à éduquer, presque à dresser les spectateurs. Par exemple, en tuant régulièrement des héros, on finit par s'y attendre. Et quand ça n'arrive plus, on est presque déçu, comme c'est le cas depuis un certain nombre d'épisodes et de saisons. N'en disons pas plus. Comment vous regardez? Vous avez une pratique des réseaux sociaux aléatoire, j'allais dire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que vous analysez aussi assez bien.
Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ce qu'on appelle la fanbase, c'est la force de frappe et la caisse de résonance de cet objet, qui a donc un intérêt économique absolument immédiat à ne pas se l'aliéner. Des séries comme Star Wars, par exemple, savent ce qu'il en coûte de se mettre à dos la communauté des fans, qui peuvent devenir très très en colère et qui peuvent littéralement avoir un impact important sur la réussite et sur les chiffres d'une série. Donc ce qui est intéressant, c'est que, et on retrouve le politique ici, le risque de la toute-puissance, ou le revers de la toute-puissance, c'est l'obligation de ne pas peiner son peuple, et c'est le fait d'avoir en permanence à compter avec ce peuple. On parlait de la crainte des spoilers il y a un instant.
Du divulgachage.
C'est formidable, la crainte des spoilers. Ça veut dire que du coup, vous préférez vous abonner à la chaîne cryptée qui passe la série plutôt que de télécharger, parce que si vous téléchargez, vous risquez d'arriver après qu'on vous aura révélé le contenu de l'épisode.
On ramène dans le droit chemin.
C'est un formidable élément de discipline du public. Donc ça, c'est une chose, je crois, très délibérée et stratégiquement très intéressant.
Et en même temps, cette crainte des spoilers interroge sur notre rapport justement à l'objet comme objet culturel. En tout cas, c'est ce que pense Paco Thielman. Voilà ce qu'il en dit.
Une grande série n'est pas spoilable. Une grande série n'est jamais spoilable. C'est-à-dire que les spoilers ne lui retirent rien. Si jamais vous vous sentez spoilé parce que vous connaissez déjà la suite de l'intrigue que vous regardez, alors peut-être que vous ne savez pas ce que vous faites. Et je pense qu'il y a une partie des spectateurs qui ne savent pas exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils regardent un spectacle, alors qu'en réalité, ils sont en train d'enregistrer des informations sur leur futur. Ce qu'on fait quand on regarde une série, c'est qu'en fait, on met notre âme en connexion avec des forces qui sont dans cette fiction-là et qui nous informent de comment on va devoir continuer notre vie. Ça nous apporte des choses pour changer notre vie. C'est ça qui importe. Toute œuvre d'art, c'est comme ça. Une œuvre d'art, sa fonction, c'est pas tant d'être regardé pour le plaisir, ou pour passer son temps, ou pour la culture. Tout ça, on s'en fout. Ce qui importe, c'est comment ça va changer notre vie. Et ça se joue pas au niveau de l'informationnel. Ça se joue pas au niveau d'une intrigue qu'il va falloir résoudre. La véritable énigme qu'il y a dans une œuvre, normalement, c'est comment elle est capable de nous regarder. Ce qu'elle est capable de dire sur nous. C'est ce qu'elle est capable de nous faire qui va nous transformer. Comment elle va changer notre vision du monde. Et en changeant notre vision du monde, va changer notre manière d'agir. Et en changeant notre manière d'agir, va changer notre vie.
Changer notre vie. Pas comme Thielman, toujours aussi pertinent à Avakan. Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire?
Oh oui, absolument. Et puis c'est vrai que c'est une série très ambivalente par rapport aux personnages. On en vient à détester, mépriser des héros, à souhaiter leur mort. Donc c'est vrai que même moralement, j'allais dire, si les enjeux de la série sont extrêmement moraux, même pour le spectateur, il y a une case de résonance réelle.
Mathieu Pottebonneville.
Oui, Paco Thielman a raison de déplacer la question sur le terrain de la petite question de ce qu'on va vous révéler sur l'intrigue à la grande question qui est au fond une série comme celle-ci, et c'est un jeu très subtil entre ce que l'on voit venir et ce que l'on ne voit pas venir, parce que les grands éléments de l'intrigue on les voit venir depuis très longtemps et personne ne veut les regarder. De même que dans notre monde, le réchauffement climatique est une chose qu'on voit venir, mais auquel on pense trop peu. Et puis en même temps, il va s'agir pour la série de produire, c'était encore le cas il y a deux jours, des images que l'on n'a pas vu venir, arriver dans l'élément de l'image, dans le cadre, un élément imprévu et qui va porter l'intrigue absolument ailleurs. Donc est-ce qu'une narration, est-ce qu'une fiction est encore capable de produire des images que l'on n'a pas vu venir? C'est une question, je trouve, qui est pas seulement une question de télévision, c'est une question artistique et philosophique de plein droit.
Ah, on va se terminer sur ces mots d'ouverture et qui érigent évidemment Game of Thrones, comme vient de le faire Paco Mutialmo, au titre d'œuvre d'art. Et donc, j'invite nos auditeurs qui n'auraient pas encore commencé la série, ils ont bien de la chance, à le faire tout de suite. Je rappelle le titre de votre livre, Avakaen, Game of Thrones décodé. C'est donc aux éditions du Rocher. Game of Thrones, série noire, c'était l'ouvrage que vous aviez dirigé. Mathieu Pont-Bonneville, aux éditions Les Prairies Ordinaires. Merci d'être passé par la grande table.